Sa mère avait été abattue par un chasseur. Dans ses narines de petit animal se grava l'odeur de l'homme et de la poudre à fusil. Orphelin avec sa sœur, sans un troupeau voisin, il apprit tout seul. Adulte, il faisait une taille de plus que les mâles de son espèce. Sa sœur fut emportée par un aigle un jour d'hiver et de nuages. Elle s'aperçut qu'il planait au-dessus d'eux, isolé sur une pâture au sud, là où subsistait un peu d'herbe jaunie. Sa sœur voyait l'aigle, même sans son ombre, à terre, sous un ciel bouché. C'était sans issue pour l'un des deux. Sa sœur se mit à courir, donnant l'avantage à l'aigle, et elle fut attrapée. Resté seul, il grandit sans frein ni compagnie. Quand il fut prêt, il partit à la rencontre de la première harde, défia le mâle dominant et fut vainqueur. Il devint roi en un jour et en duel. Les sabots des chamois sont les quatre doigts d'un violoniste. Ils vont à l'aveuglette sans se tromper d'un millimètre. Ils giclent sur des à-pic, jongleurs en montée, acrobates en descente. Ce sont des artistes de cirque pour le public des montagnes. Les sabots des chamois s'agrippent à l'air. Le cale en forme de coussinet sert de silencieux quand il veut. Sinon, l'ongle divisé en deux est une castagnette de flamenco. Les sabots des chamois sont quatre as dans la poche d'un tricheur. Avec eux, la pesanteur est une variante du thème, pas une loi. Il les posa à l'aube dans un brouillard épais à ne pas voir le sol et les trouva mal assurés. Aussi attendit-il que son cœur pousse ses battements jusqu'à la pointe de ses ongles et que le jour croisse en même temps que les coups. Il ne voulait pas céder, baisser sa corde gauche devant un mâle plus jeune ou force seulement plus neuve. Il flaira l'horizon pour savoir où ne jamais plus revenir, ni se laisser surprendre. Le jour au franc soleil sécha vite le brouillard, un ruisseau de lumière venant de l'est parcourait le troupeau qui s'y abreuvait, museau levé. Ils étaient bien des mètres au-dessous de lui. De son abri à l'ombre, il en vit la force, la quantité qui supporte les pertes. Ils n'étaient pas courageux, ils étaient nombreux, valeur qui donne de la force aux plus faibles. C'étaient ses fils, sortis des poussées de ses flancs. Il n'en était pas fier, il avait fait ce que voulait la vie. Il pouvait s'exposer en pleine lumière. Bête assassine, l'homme qui abattait les fils du roi des chamois de loin, bête qui grouillait dans la vallée et grondait comme le tonnerre quand il faisait beau. Bête solitaire, celle qui montait vers eux pour les surprendre, les emporter. Même ainsi, les chamois le préféraient à l'aigle, qui arrive par surprise sans s'annoncer par l'odeur, les jours de nuages et de brouillard, et qui pousse les petits dans le vide pour les dévorer en bas, fracassés. Mieux vaut l'homme qu'on sent de loin et qui fait fuir l'aigle. Les chamois s'aperçoivent toujours de sa présence. L'homme avait déjà un certain âge, une grande partie de sa vie à monter braconner en montagne. Il s'était retiré pour faire ce métier après une jeunesse passée dans la ville avec les révolutionnaires, jusqu'à la débandade. Pendant une période du siècle dernier, la jeunesse s'était donné une loi différente de celle qui existait. Elle avait cessé d'apprendre des adultes, aboli la patience. En montagne, elle grimpait sur des cimes nouvelles. En plaine, elle se donnait des noms de bataille. Elle voulait être une primeur de temps opposé, déclarait fausse toute monnaie. Elle n'avait pas droit à l'amour. Bien peu d'entre eux eurent des enfants pendant les années révolutionnaires. On n'a plus jamais vu une jeunesse s'acharner à ce point pour renverser son assiette. Une assiette à l'envers ne contient presque rien, mais elle a une base plus large, elle est plus stable. Il avait suivi des cerfs, des chevreuils, des bouquetins, mais plus de chamois, ces bêtes qui courent à la perfection au-dessus des précipices. Il reconnaissait une pointe d'envie dans cette préférence. Il avançait sur les parois à quatre pattes, sans une once de leur grâce, sans l'insouciance du chamois qui laisse aller ses pieds, la tête haute. L'homme pouvait aussi faire des ascensions bien plus difficiles, monter tout droit là où eux devaient faire le tour, mais il était incapable de leur complicité avec la hauteur. Eux vivaient dans son intimité, lui n'était qu'un voleur de passage. Il avait vu les chamois franchir les précipices en pleine course, l'un derrière l'autre, exécutant une séquence de pas identiques dans leur prise d'élan. Leur saut était un raccommodage entre deux bords, un point de suture au-dessus du vide. Il enviait la supériorité de l'animal. Il reconnaissait la bassesse du chasseur qui invente un expédient, l'embuscade à distance. Sans la certitude de son infériorité, l'élan pour se mettre à la hauteur fait défaut. L'homme franchit 200 mètres d'air au-dessous du troupeau. Il ne pouvait le voir à tant de sauts de roche plus haut. Aucun sens ne lui donnait la certitude qu'il y était. L'espèce humaine est dotée de bien peu de sens. Elle les améliore grâce au résumé de l'intelligence. Le cerveau de l'homme est un ruminant. Il remâche les informations des sens, les combine en probabilité. L'homme est ainsi capable de préméditer le temps, de le projeter. C'est aussi sa damnation. Car il en retire la certitude de mourir. Ce jour de novembre, l'homme savait qu'il frôlait le terme. Il suivait peut-être le troupeau pour la dernière ou l'avant-dernière fois. L'homme ne supporte pas la fin. Une fois qu'il la connaît, il pense à autre chose. Il espère s'être trompé dans ses prévisions. Il était normal pour lui de finir dans les rochers comme un roi des chamois, mais un roitelet. Il sourit. Car il savait souffler le cri de l'oiseau dans son harmonica. Un des refuges du roi des chamois se trouvait sous un pin mugot qu'il avait lui-même creusé de ses cornes et de ses pattes. C'était un talent inconnu du troupeau qu'il avait acquis pour se cacher. Son espèce savait gratter la neige à l'aide des sabots pour chercher un peu d'herbe fanée. Lui avait appris à remuer la terre. La première fois, il s'était glissé sous un pin pour échapper à l'odeur d'un homme tout près. Quand il était passé, il avait déplacé des cailloux avec ses pattes pour se creuser un bon abri. Sous le toit des branches, il levait son museau la nuit vers la voûte du ciel, un pierrier de cailloux lumineux. De ses grands yeux et le souffle fumant, il fixait les constellations où les hommes voient des silhouettes d'animaux, l'aigle, l'ours, le scorpion, le taureau. Lui, il voyait des brisures d'éclairs et les flocons de neige sur le pelage noir de sa mère, le jour où il avait fui loin d'elle avec sa sœur, loin de son corps abattu. L'été, les étoiles tombaient comme des miettes, brûlaient en vol pour s'éteindre dans les champs. Alors il s'approchait de celles qui étaient tombées près de lui pour les lécher. Le roi goûtait le sel des étoiles. Dans chaque espèce, ce sont les solitaires qui tentent de nouvelles expériences. Ils forment un quota expérimental qui va à la dérive. Derrière eux se referme la trace ouverte. Il allait aussi dans les bois, détachait de ses lèvres les fleurs violettes et les jaunes qui séduisent les abeilles. Il aimait la réponse qui fleurit sur les parois à pic, se contentant d'un ongle de terre. Sur sa corne gauche s'agitaient, tels de petits drapeaux, les ailes d'un papillon blanc. Tandis que le jour passait de l'est au sud, le sang du roi réchauffa les ongles de ses sabots. Il en éprouva l'équilibre en soulevant ses pattes antérieures, restant sur celles de derrière, position peu commode pour une bête pourvue de quatre appuis. L'espèce humaine avait libéré ses mains en se dressant sur ses pieds, mais elle avait perdu en rapidité. Dans l'escalade, elle se retrouvait à quatre pattes, mais en analphabète. Le roi des chamois reposa ses pattes antérieures à terre. Sa fatigue dépendait du cœur, non pas des quatre leviers prodigieux. Il sortit de sa tanière au creux du pin en sentant l'odeur de l'homme monter avec les courants ascensionnels, odeur de l'assassin de sa mère et des siens. Au-dessus de lui se perdaient les cris des oiseaux. Il ne prévenait sûrement pas les chamois de la présence de l'intrus. Les oiseaux, au-dessus de lui, étaient du côté de la chasse. Le canon du fusil avait ramassé des fils d'araignées dans les passages. Il les laissa. Ils étaient de bon augure, œuvre du plus grand chasseur du monde, qui dessine des pièges dans l'air pour capturer des ailes. L'araignée était une collègue. Dans sa cabane, les fils des toiles d'araignée étaient tendus autour de la fenêtre. Ils brillaient au soleil pour accrocher les vols. Les araignées fixaient des filets avec un centre et attendaient. Les proies viennent à elles. L'homme devait escalader pour aller au centre des proies. L'araignée était le plus fort des chasseurs. Dans sa position encore à l'ombre, l'homme voyait briller au vent un fil de toile d'araignée collé sur le canon de son fusil. Un papillon blanc alla se poser dessus. Il le chassa d'un léger mouvement pour l'enlever sans le toucher. Son vol saccadé en zigzag était l'opposé de la balle en plomb chargée dans l'obscurité du canon brillant, avec sa ligne droite vers la grosse cible. Un papillon sur un fusil le tourne en dérision. Sa visée est tournée en ridicule par le vol saccadé, qui, où qu'il tombe, porte en lui le centre atteint. Là où se pose le papillon, c'est le centre. L'homme le chassa d'un geste lent et d'un souffle de rejet. Il avait cessé de les chasser après ce qui s'était passé. Il avait tiré sur un bouquetin dans le brouillard, sans voir que c'était une femelle avec son petit. La bête, frappée sur le versant escarpé, avait essayé de rester agrippée à la paroi en enfonçant ses pattes incertaines, puis elle était tombée à la renverse, à un saut de 20 bons mètres. Le petit avait sauté sans hésitation dans le vide du brouillard derrière sa mère, retombant sur ses pieds. Sa mère avait roulé à nouveau et avait fait un saut encore plus grand. Le petit avait encore volé derrière elle. Quand l'homme atteignit l'animal tué, le petit était là, un peu tordu sur ses pattes, les yeux grands, calmes, désolés. Il n'avait pas eu le courage d'éventrer la bête sur place, là, devant son petit, de vider par terre les kilos de viscères pour alléger le poids. Il l'avait chargée tout entière sur ses épaules. Ce fut alors qu'il choisit son titre de voleur de bétail sous les yeux du maître de tout, grand, calme, désolé. Il faut regarder dans cette paire-là pour savoir qu'on a été pesé. Il décida que sa chasse au bouquetin était terminée. On prend des leçons avec les animaux. Elles ne servent pas à réparer, seulement à s'arrêter. Il n'avait pas de remords, il ne pouvait réparer le tort fait, et il pouvait renoncer. Quand un homme s'arrête pour regarder les nuages, il voit défiler le temps au-dessus de lui, un vent qui enjambe. Alors il faut se remettre debout et le rattraper. Il se remettait au travail, débarrassait les troncs des branches latérales, laissant la touffe du sommet. À la fin de la coupe, il était épuisé. La dernière hotte accrocha une petite branche, la cassa et ce peu de bois en plus suffit à le faire vaciller et tomber à genoux. Chez lui, avec le premier feu allumé, il retrouvait ses forces et la patience de mener le jour à sa finition. Le soir perfectionne l'œuvre brute commencée au réveil. Le ciel encore noir. Le soir émousse, polie une dernière fois au papier de verre le jour fait à la main. Sa vie au gré des saisons était allée avec le monde. Il l'avait gagnée tant de fois, mais elle ne lui appartenait pas. Il fallait la rendre froissée après avoir été utilisée. Quel était ce créancier indulgent qui la lui avait prêtée neuve et la reprenait usée, à jeter? Avait-il besoin de croire qu'il existait un contremaître et que le monde était son produit fini? Il n'en avait pas besoin pour lui parler, pour le croire à l'écoute, mais c'était une pensée qui lui tenait compagnie. S'il existait un maître de tout, il n'aurait pas laissé son bien se gâcher, livré aux mains de l'espèce des hommes. S'il existait un maître, il s'était enivré et avait perdu le chemin de sa maison. Il valait mieux qu'il n'existe pas. L'homme prospérait en son absence. Il avait appris le bien et le mal en se servant tout seul. Un maître de tout était impossible, mais cet impossible tenait compagnie. Face au ciel qui le soir descendait jusqu'à terre, il aimait dire un merci au contremaître. C'était de bonnes pensées devant le feu pour accompagner les bavardages du bois s'effritant dans les flammes. Elles réchauffent le sang. Thank you. Dans l'Écriture sainte, il existe la formule « vêtu de vent d'Elohim ». Elle concerne un homme touché par une prophétie à transmettre. Personne d'autre que lui ne sait de quel vêtement il s'agit. Le roi des chamois était vêtu de vent. Dans la tempête, il se laissait envelopper par les rafales, c'était son manteau. Son pelage brillait, gonflé par l'explosion des éclairs. Le roi fermait les yeux et se laissait étreindre par l'air déchaîné. Il était en sûreté là où toutes les autres créatures sentent une menace. Il était en alliance avec le vent, son cœur battait léger, se chargeant de l'énergie lancée par le ciel sur la terre. Ce jour de novembre est de fatigue. Le roi flaira la neige toute proche, derrière la courbe rapide du jour de soleil. Il flaira la neige amie qui pousserait son espèce à se pelotonner dans les tanières de glace. Le soleil faisait son tour d'adieu sur les hauts pâturages. Le troupeau de chamois était nerveux. Il avait flairé l'homme, puis l'avait perdu. Les mâles ne broutaient pas. Ils bondissaient dans des courses saccadées pour voler une odeur à l'air immobile. Ils soufflaient leur respiration comprimée dans un sifflement. On aurait dit de brefs défis interrompus, sans victoire, qui ne leur appartenaient pas. Une fois les femelles couvertes une par une, il permettait le défoulement des autres mâles. Mais une des dernières en chaleur lui avait été volée par un de ses fils. C'était un coup qui le jetait à bas du trône avant l'heure, un outrage à laver en duel. Le roi était là de courir et de sauter derrière une canaille de fils adultes. C'était la dernière saison de sa vie, son règne à l'exceptionnelle durée de 20 ans était fini. Pour l'homme aussi, le temps de la chasse devait cesser. Dans la nature, la tristesse n'existe pas. L'homme écartait la sienne en pensant que le roi des chamois était en train de mourir lui aussi quelque part, sans un souffle de tristesse, sa fierté intacte. L'homme essayait d'être capable. Un hiver, il mourrait lui aussi de faim et de froid, sans arriver à allumer un feu. C'était une bonne fin pour les solitaires, une fin de bougie. Le présent est la seule connaissance qui est utile. L'homme ne sait pas vivre dans le présent. Il se leva et descendit lentement vers la bête tuée. Basse, au-dessus de lui, une foule d'ailes attendait tandis que venait à sa rencontre, de l'occident, le front de la neige, précédé par une tache de nuages noirs. L'homme arriva près du roi. Le troupeau était encore là et regardait. La victoire la plus attendue était la sœur jumelle d'une défaite qu'il n'avait encore jamais connue. Il méprisa l'instinct qui l'avait poussé à ajuster son tir. Un crachat monta dans sa gorge et de l'eau dans son nez tandis que ses yeux s'embuaient. Voleur de vie insoumise, souveraine, laissée sans surveillance sous le soleil du maître de tout. Mais c'était peut-être à lui qu'en revenait la garde, lui qui devenait le voleur. C'était à lui de défendre. Il compta les anneaux des cornes, les années accumulées en cercle. Elles avaient plus de valeur que les siennes. Il avait tué un ancien. Un élancement à l'épaule gauche lui rappelait le recul. Un papillon blanc vola à sa rencontre et autour de lui. Il dansa devant les yeux de l'homme dont les paupières s'alourdirent. Les hottes pleines de bois, les animaux portés sur son dos, les prises tenues avec les dernières phalanges de ses doigts, le poids des années sauvages lui apporta sa note sur les ailes d'un papillon blanc. Il regarda le vol en zigzag qui tournait autour de lui. De son épaule pendait la tête renversée du chamois. Le vol alla se poser sur la corne gauche. Cette fois-ci, il ne put le chasser. Ce fut la plume ajoutée au poids des ans, celle qui l'anéantit. Sa respiration s'assombrit, ses jambes se durcirent, le battement des ailes et le battement du sang s'arrêtèrent en même temps. Le poids du papillon avait fini sur son cœur, vide comme un poing fermé. Il s'effondra, le chamois sur le dos, face contre terre.